Je veux que ça problème que je lève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Je veux que ça problème que j'élève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique, y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs prennent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont bêta par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS foncent des une église et casse chaud.
Je vois des innocents crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Tu t'occupes des enfants au lieu de soigner tes monuments.
C'est pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France.
T'as vu la merde que c'est pas une solution de fermer les yeux.
Il faut que je me venge, alors je fais couler l'encre.
Pour qui je vote? Celui qui défend ma cause ou bien un voyou de la route?
À gauche comme à droite, tous la même requête.
On fait flipper la France ici, les poètes contre leurs écrits.
Et dans un style réfléchi, je développe ma rhétorique.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Frontline 106.3, 106.3.
Bonsoir à tous, Frontline 106.3, deuxième et quatrième vendredi de chaque mois. Donc pour cette semaine, on reçoit le collectif Quartier Libre, qu'on avait déjà reçu pour différentes conférences, notamment sur les théories du complot et tout ça. Donc voilà, là on va revenir avec un nouveau sujet. Un petit son de soul, comme d'habitude, c'est un morceau de Lee Feeds. Le morceau s'appelle Faithful Man, en fait c'est extrait de l'album du même nom qui est sorti là en début d'année. Donc on écoute tout de suite Lee Feeds avec le morceau Faithful Man.
You make me do wrong.
Don't you know you can't?
came along.
Frontline 106.3.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous recevons deux membres du collectif Quartier Libre qu'on avait déjà reçu par avant pour le thème des nouveaux visages de l'extrême droite. Alors, salut à vous deux. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la récupération de la contre-culture par l'extrême droite. Si vous pouvez un peu présenter rapidement votre collectif et un peu moins rapidement le thème.
Alors pour le collectif, on est un petit groupe de militants de quartier, de chercheurs, d'universitaires, de journalistes, donc ça rassemble des gens assez divers, qui ont pour point commun de s'intéresser aux évolutions récentes de l'extrême droite et puis aux stratégies qu'on peut développer pour la combattre sous toutes ses formes, notamment sous toutes ces nouvelles formes. On essaye d'en analyser un petit peu les contenus, les enjeux. Pour ce faire, on organise assez régulièrement des conférences ouvertes et publiques sur les thèmes qui alimentent les réflexions des extrêmes droites à l'heure actuelle. Récemment, on s'est intéressé donc aux théories du complot, pour lesquelles vous nous aviez déjà reçus. On a reçu récemment Nicolas Lebourg aussi pour son ouvrage sur Duprat. On a fait d'autres choses sur l'extrême droite et les quartiers. Donc on essaye en gros de cibler tout ce qui est susceptible d'informer une nouvelle approche de l'extrême droite et puis de comprendre surtout une fois encore les nouveautés, les choses qui ont changé récemment. Pour ce qui est du thème qu'on aborde aujourd'hui, contre-culture et l'extrême droite, il est issu d'une réflexion qui n'est pas que la nôtre, qui est partagée, je crois, par un nombre assez important de gens qui s'intéressent à ces questions, qui est effectivement l'espèce d'offensive culturelle d'extrême droite aujourd'hui, qui récupère de manière renouvelée, peut-être pas nouvelle, mais renouvelée en tout cas, un tas de références, ça va de références musicales, littéraires, de vêtements, etc., pour tenter de vendre une nouvelle image, de renouveler la perception qu'en ont les gens. Ça passe également par pas mal de tentatives de récupération, de contre-culture traditionnellement associées plutôt à la gauche. Ça a été assez bien étudié récemment et assez fréquemment. Il y a deux ouvrages notamment qui sont sortis cette année et l'an passé sur tout ce qui est évolution graphique, des styles, des affiches, des autocollants d'extrême droite. Sur toutes les tentatives, les politiques de communication, qu'en gros,
quelqu'un comme d'extrême droite. Quoi,
ouais, exactement. Général, quelqu'un comme Zvonimir Novak, par exemple, qui a publié deux bouquins très bien faits et très bien renseignés sur les autocollants et les logiques de récupération, comment des visuels d'extrême gauche étaient récupérés par des groupes d'extrême droite, les identitaires, par exemple, etc.
Projet Apache, par exemple,
a
été assez
actif sur ce terrain-là, sur le terrain de la communication, tout à fait. Ouais.
Bon, on va enchaîner sur un petit morceau et puis on vient après donc pour approfondir le sujet.
Ouais, on va écouter un morceau de Fils du Béton. Ça, c'est extrait de son projet Hip Hop pour le Peuple. C'est en téléchargement gratuit. Le morceau, il s'appelle 22-22-17-17. Il y a le clip sur Internet. Donc allez voir ça et allez télécharger ce projet de Fils du Béton.
17-17 22-22 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. Pour une chasse au canard comme 40 bleus. Gyrophare et crissement de pneus. Fonce des Ricard et tête de nœud. C'est Califrate, c'est le chant des plaques. Soir on fait le bis ou Judas à la Pâque. Insultes racistes et coups de matraque. Qu'est-ce qu'il dit l'agent? Il dit écoute ma carte. Tu vides tes poches, il vide son sac. Vous les noirs, les arabes, vous puez, vous êtes tous sales. Police nationale, c'est du joli. Patrouille au whisky dans les rues la nuit. L'autre qui dit qu'il a fait l'Algérie. Et qu'en revenant il a failli ouvrir une boucherie. Voir Alger et mourir. Voir Roissy et mourir. Vivre dans le quartier mourir. Ok, le préfet a des chiffres à fournir. Mais le quartier a besoin de se nourrir. Je vous présente l'inspecteur la torture. Et puis son collègue l'inspecteur la bavure. Au commissariat, entre les murs. Qu'est-ce qu'a fait la République? Bête à base dure. Au fait je voulais demander. Ils font du camping les CRS. Sur les parkings de nos tests. Ça sent bizarre dans le secteur. Ça sent la racaille grillée aux tasseurs, mais qui nous protège de des bleus. Quand l'un d'eux a trop bu et devient trop nerveux, j'ai la rime, Malek ou Sekin. Je dédicace à toutes les victimes et Sekin. 22-22, Balak vers les bleus. 17-17, sort la nisette.
Frontline 106.3.
22-22, et bève là les bleus. Salaud descend dans le quartier des lépreux. Qui joue les cow-boys armés. On n'a pas buté le shérif ou l'adjoint comme Bob Marley. Tu veux un cliché, on n'aime pas la police. Comme chaque jour, leur syndicat nous vomisse. Au petit matin, perquise. Faites pas de mal à mon fils chéri. Proton dans ton pays. Allô. Vous avez demandé la police. Allô. On s'appelle tous Aïssa, Habib ou Amadou Diallo. Safari au Mirail, à Mantes la Jolie. Balle trap au flashball, dans le dos, ça fait mal. Les tu traînes dans la cube, à la recherche de keps, de quête de cube, à l'intérieur des culs. La racaille, elle est têtue, elle nous jette des queues trues. Au lieu de nous souhaiter la bienvenue, ça sent la bévue. Pour ce prévenu, des fois l'état assassine, ni vu ni connu. Face à terre, mais qu'est-ce que tu vas faire à part te taire ou insulter leur mère? Les bleus nous détestent, c'est pas un rêve. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que tu crèves au transiqué des orfèvres? 22-22, v'là les bleus tout dégueu. Cachez-vous les rapsa et les niqueux. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la nisette. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la nisette. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la nisette. Et quand leur syndicat nous vomisse, j'irai chanter justice en banlieue au bal de la police.
Voilà, à l'instant, c'était Fils du Béton avec le morceau 22-22, 17-17.
Donc on revient, on est toujours avec le collectif Quartier Libre pour un thème sur la récupération de l'extrême droite de la contre-culture. Donc entre contre-culture, tu parles de style, tu parles de style politisé, tu parles aussi de groupes d'extrême droite dans leur type de communication et donc de la façon dont ils vont toucher d'une certaine façon par l'imagerie des populations relativement jeunes. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur ces points-là et de quelle contre-culture tu parles en fait?
Je pense que dans un premier temps, je pense que ce qui est intéressant de considérer, c'est l'intérêt pour ces groupes de s'aventurer sur ce terrain-là, quoi, sur le terrain culturel. Et là, nous, on est parti d'un retour à l'idée d'une offensive métapolitique de ces droites qui, en gros, ont plutôt intérêt à s'aventurer sur le terrain culturel pour, à terme, évidemment, gagner le terrain politique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Enfin, Manu, je ne sais pas si tu veux...
C'est un événement. En tout cas, c'est une théorie. Ça a été théorisé dans les années 70 par un mouvement qui s'appelle le GRES, donc la Nouvelle Droite. Il y a une culture d'extrême droite qui existe antérieurement aux années 70 et qui est très ancienne, avec une littérature, des référents culturels, idéologiques, etc. Mais dans les années 70, donc partant du constat qu'il est difficile pour l'extrême droite de se réimposer sur le terrain politique du fait de l'histoire et notamment de toute la période de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle Droite reprend donc un théoricien de gauche, communiste italien, Antonio Gramsci, qui avait dans les années 30 théorisé le concept de métapolitique, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique politicienne et d'enjeux politiques, les représentations culturelles jouent un rôle dominant. Donc lui, il théorise dans un milieu de gauche, c'est-à-dire par rapport à la question de la reprise des moyens de production par le prolétariat, il y a aussi tout un ensemble d'éléments culturels qui doivent se mettre en place. Donc dans les années 70, la Nouvelle Droite relie Gramsci et récupère ses idées, disant donc qu'il faut agir à un niveau culturel sur les représentations.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, enfin, je te coupe deux secondes, c'est que la Nouvelle Droite, c'est une étiquette qu'il aurait imposée de l'extérieur par la presse, mais qu'eux-mêmes se revendiquent plutôt d'une nouvelle culture. Enfin, eux se revendiquent comme les théoriciens d'une nouvelle culture, ce qui est déjà en soi assez significatif de l'importance de l'avancée culturelle sur ces questions, quoi.
Donc leur idée, c'était de se situer donc en dehors des institutions politiques, puisque de toute façon, ils n'y avaient pas accès, hein, et d'agir au plan du langage et des idées. Donc cette offensive entre guillemets culturelle. Donc c'est accompagné par la création donc de plusieurs revues. La Nouvelle Droite a elle-même créé ses propres revues, comme une revue par exemple intellectuelle qui s'appelle Crisis, où on retrouve des intellectuels de différentes obédiences d'ailleurs, qui donnent des articles, pas toujours consciemment, à la revue, et des militants de la Nouvelle Droite. Plus près de nous, il y a eu dans les années 90, mais on en reparlera, la revue Réfléchir et Agir, qui a joué également un grand rôle dans le développement musical et culturel de toute une partie de la scène d'extrême droite. Donc ces idées ne sont pas nouvelles, hein, elles ont déjà 30-40 ans, elles ont une antériorité et elles s'appuient également sur, alors pas l'émergence de ces phénomènes puisque ces phénomènes sont antérieurs, mais en tout cas leur analyse dans un contexte de sociologie anglo-saxonne avec les cultural studies. Donc peut-être que Ave, tu peux nous en dire un petit mot.
Ouais, parce que en gros, alors ce qu'on voit et ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que c'est les contre-cultures dont sont emparées les extrêmes droite, c'est beaucoup de contre-cultures dites populaires, enfin, c'est le nom qu'on leur a donné, et ça c'est hérité effectivement d'une approche assez anglo-saxonne de ces questions, anglaise en particulier, alors qu'on songe un peu, enfin il y a quelques années, à l'influence aussi des milieux skin, punk, etc., qui nous viennent justement de la Grande-Bretagne, je crois qu'il y a un héritage assez clair de ce côté-là, et ces questions-là, ce que représente le style de ces jeunesses anglaises, par exemple des skins, des punks, des teddy boys avant eux, etc., c'est analysé par des gens en Angleterre, à Birmingham en particulier, qui en gros revalorisent aussi l'idée de culture, qui renouvellent un peu les analyses marxiennes, enfin qui reprennent l'héritage de Marx en gros, et certains historiens anglais, E.P. Thompson en particulier dans les années 70, en gros expliquent que d'après eux, il y a un grand silence de la pensée marxienne, un silence qui pèse sur les questions de système de valeurs, de culture, et ils essayent de montrer comment finalement, par des choses aussi infimes que le t-shirt qu'on porte, la coupe de cheveux qu'on a, y compris, on assiste chez les jeunes en particulier à des formes de réinvestissement de certaines cultures des pères, cultures ouvrières ou autres. Et en gros, ils développent tout un arsenal, alors pas uniquement universitaire, ça dépasse largement le cadre de l'université, mais des moyens d'analyser notamment des phénomènes de contre-culture de jeunesse. Donc par exemple, ces bandes de punk et de skin dont je parlais plus tôt. Et,
notamment le mouvement skinhead qui a été le premier
un des premiers à être
prolétarienne occupée, revendiquée. Ouais.
Exactement. Et en gros, l'idée, c'est de montrer comment finalement le choix d'un style vestimentaire ou le choix d'appartenance ou à des contre-cultures, ça correspond à quelque chose qu'on peut relier à un phénomène, enfin à des enjeux sociaux et politiques plus vastes. Donc il y a toujours chez eux un va-et-vient entre la culture et puisque ça dit plus largement du rapport à la société. Il y a un tas d'ouvrages qui sont publiés dans ces années-là qui s'appellent Culture et Société. Enfin, en tout cas, ça interroge toujours le rapport entre la culture, le domaine culturel, le domaine social et le domaine politique. C'est une façon de montrer aussi qu'il y a une façon de montrer qu'on a peut-être surestimé qu'on a sous-estimé la capacité des classes ouvrières en particulier à s'emparer de la consommation. On a sous-estimé le rapport braconnier quasiment à la consommation des cultures populaires qui s'en emparent, qui les déforment, qui se les réattribuent, qui les refondent, etc. Donc en gros, les contre-cultures, la notion même de contre-culture dans sa théorisation en tout cas et de jeunesse en particulier, elle apparaît à ce moment-là avec ces études-là et ses concomitants, notamment de l'apparence des premières contre-cultures à être récupérées très explicitement par l'extrême droite, en particulier le mouvement skin, par exemple, qui au départ n'était pas investi par l'extrême droite et qui est très rapidement effectivement récupéré par des groupes d'extrême droite en Angleterre et qui véhicule aujourd'hui encore, y compris dans l'extrême droite française actuelle, par exemple, un imaginaire qu'on associe dorénavant à l'extrême droite. Il y a encore un tas de groupuscules ou de groupes d'extrême droite qu'on voit reprendre et investir les éléments du style les plus classiques des skinheads des années 60 en Angleterre. Quoi. Donc,
Un développement de la récupération par l'extrême droite, vous voyez ça dans quoi, récupérer quoi et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en voyez et quel lien il y a éventuellement avec des groupes d'extrême droite organisés ?
Alors il y a eu, chronologiquement, comme le dit Valérie, il y a eu le mouvement Skinhead qui a été le premier. Alors il y a des tentatives délibérées de récupération, il y a aussi des dérives au sein de ces mouvements. Le mouvement Skinhead au tout début est plutôt visiblement lié à des dérives autour du football et du nationalisme. On peut penser à un groupe comme Screwdriver qui au début fait de la musique et de l'ambiance des stades et l'ambiance nationaliste va les conduire vers un extrémisme politique. Donc ça c'est la première, on va dire le premier phénomène important dans les années 70, c'est le mouvement Skinhead. À la fin des mouvements des années 70, il y a un autre mouvement, donc qui est le mouvement de la musique électronique, qui n'est pas lui-même un mouvement du tout marqué à l'extrême droite. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. On va dire que ce sont plutôt des idées libertaires qui sont en vogue dans ce milieu-là. Donc on est dans les années, milieu des années 70, avec des groupes comme TG, Thrombin Blistle, de Genesis Peoridge ou des choses comme ça. Donc ils font une musique atonale, bruissiste. Donc c'est un autre type de musique qui n'est pas lié à la scène ni oi punk ni à la scène rock qui s'est développée. Donc
c'est post-hippie quoi, c'est un truc.
Alors c'est post-hippie, ça a des musiques d'influence de musique concrète aussi, comme Pierre Henry, des choses comme ça, donc la musique qu'on classe dans le classique, ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée était en réalité de récupérer les sons du monde moderne pour en produire une musicalité. TG, donc Genesis Peoridge, disait dans les années 70, qui faisait une musique LED pour un monde laid. C'est la traduction approximative de sa citation. Enfin bon, c'était récupérer les bruits ambiants pour en refaire une musique. Ces éléments musicaux sont également dans une extrême provocation par rapport donc à la société des années 70, qui est une provocation qu'on retrouve aussi dans le mouvement punk. D'ailleurs, ça c'est un des points communs entre ces mouvements et le punk, et la reprise en particulier dans l'Angleterre victorieuse du nazisme, etc., des symboles du national-socialisme. On peut penser ne serait-ce que aux Sex Pistols qui portaient des t-shirts avec des croix gammées, ou Siouxsie and the Banshee qui en première partie des Clash a causé le scandale puisqu'elle voulait chanter habillée en Waffen-SS, les Clash ayant refusé. Alors c'est pas du tout idéologique à ce moment-là, c'est de la provocation pure et simple. Sachant que dans cette provocation pure et simple, plusieurs choses vont se mettre à apparaître. Alors certains groupes vont aller très loin dans la provocation, on peut par exemple penser au groupe Slovene Lejbar. Alors Lejbar est le nom de la capitale de la Slovénie, donc Ljubljana, qui a été donnée par les nazis. Donc c'est le nom germanique, voilà. Donc eux commencent au début des années 80 sous Tito. Voilà, le symbole du groupe étant une grande croix blanche sur fond noir, ou croix noire sur fond blanche, enfin une croix. Donc le groupe, lui, mène une réflexion sur le totalitarisme musical, donc dénonçant la musique pop commerciale de l'époque comme étant un nouveau totalitarisme. Donc on a des reprises de différents morceaux, des Sex Pistols, des Beatles, etc., en musique martiale et violente. Alors le groupe joue aussi évidemment d'un imaginaire totalitaire, chantant en uniforme, en cuir, etc., etc. Avec un discours qui accompagne la chose, alors un discours qui est sans doute du 150e degré, mais qui est aussi pris au premier degré par certains fans. Alors Lejbar est un exemple parmi d'autres. Lejbar va plutôt se chercher dans son imaginaire à l'extrême droite, ou du moins dans le national-socialisme. D'autres groupes iront le chercher dans le communisme. Donc voilà. Maintenant, des groupes, eux, vont commencer, donc en reprenant ces imaginaires-là, à dériver concrètement vers des choses plus étranges. Alors, on peut penser à un groupe du début des années 80, l'un des premiers, qui est Death in June. Donc, qui vient d'une formation à l'origine punk qui s'appelle Crisis.
C'est anglais, c'est quoi c'est...
Ils sont anglais. Ouais. Ils sont anglais. Donc, Crisis, c'est les années 77, c'est le grand moment du punk, 77-78. La formation donc, va se transformer en Death in June, donc mort en juin, qui est une référence à la nuit des longs couteaux, donc l'assassinat de la SA par la SS en 1934, donc en juin 34, 29 et 30 juin 34. Alors à cette époque-là, le groupe n'est pas explicitement d'extrême droite, hein, il est même plutôt proche de mouvements trotskistes britanniques, je passe rapidement. Mais on va dire que vers le milieu des années 80, les années 84-85, le groupe va de plus en plus se rapprocher d'une image extrêmement ambiguë. Les albums vont avoir des références explicites, notamment à l'ASA, puisque le groupe publie en 87 un album qui s'appelle Brown Book, donc le livre brun, référence à la couleur des chemises brunes de l'ASA. Oui, il reprend d'ailleurs en musique électronique l'hymne de l'ASA. Donc il y a une longue dérive. Le groupe va d'ailleurs se splitter et un des membres, Wakeford, fonde en 87 donc un autre groupe qui s'appelle Sol Invictus, où les références sont explicitement d'extrême droite. Donc lui-même à ce moment-là est membre du British National Front, donc parti d'extrême droite britannique, et donc va lancer en 87 un premier album qui s'appelle Against the Modern World, qui est une référence au penseur fasciste ésotérique Evola, donc qui était une grande figure de l'Italie fasciste, donc voilà, et qui a écrit un livre contre le monde moderne. Donc les références pénètrent de plus en plus avec une adhésion explicite aux droites radicales.
Mmh. En France, est-ce que vous avez des exemples peut-être un peu plus récents, de groupes peut-être un peu plus connus ou qui ont pu faire un peu plus de bruit direct, en tout cas sur la population, qui peut être pour les jeunes souvent des fois à la limite de l'apolitisme, puis récupéré vers l'extrême droite, parce qu'il y a beaucoup quand même de... Je pense en particulier pour le genre de groupe que tu as cité, Manu, c'est quand même globalement des groupes de connaisseurs, quoi. Enfin, des fans connaisseurs du sujet, qui sont déjà... c'est déjà la base un peu des nazillons pour aimer ce genre de choses. Donc moi, ce qui m'intéresserait de voir un peu avec vous, c'est justement, quand on parle de récupération, c'est de manipulation au niveau... de la communication, de la musique, du style, d'une contre-culture en général. Est-ce que, justement, petit à petit, avec ce genre de phénomène, on voit émerger dans d'autres scènes, peut-être, autres que le punk ou l'électro, des choses qui vont avoir un impact plus violent sur, en termes de manipulation directe des auditeurs, quoi.
Alors la musique électronique est en effet assez groupusculaire, c'est une musique qui à la base elle-même se voulait assez élitiste, enfin pour donner une indication quand même de l'audience que peuvent avoir ces groupes au-delà de toute connotation politique, Genesis Peoridge est passé à la Fondation Cartier à Paris et a quand même une certaine audience, donc c'est pas des groupes qui sont totalement sans audience. Maintenant c'est vrai que c'est des groupes extrêmement marginaux. La scène française de musique électronique a été relativement pauvre. On peut citer dans les années 90 donc un groupe qui n'existe plus actuellement, qui s'appelait Les Joyaux de la Princesse, dont le... qui était composé par une seule personne, qui a fait un album avec Death in June d'ailleurs, merci, et dont le thème était de prendre des grandes plages sonores particulièrement glauques sur lesquelles sont passés des discours des années 30-40, en particulier des discours des collabos parisiens ou du maréchal Pétain. D'accord. Donc il y a eu des albums comme Aux petits enfants de France ou Allemagne à des héros, Douce France, etc. Voilà, donc musicalement c'est assez intéressant ce qu'il fait, mais avec des discours de collabos et de maréchal. Mais bon, ça c'est des choses qui sont en effet très très groupusculaires et peu d'audience. Alors l'extrême droite a tenté finalement de vouloir se donner une audience sur le modèle d'une scène qu'on appelle la scène alternative française ou le punk français, donc qui a eu beaucoup de succès dans deuxième moitié des années 80, donc qui naît après le punk, avec des groupes comme les Béruriers Noirs, Ludwig von 88, etc., etc. Donc ça qui a eu un gros impact à gauche. Enfin, ça a été un gros mouvement fédérateur. Donc ils ont essayé dans le milieu des années 90, dès la première moitié des années 90, sans trop de succès d'ailleurs, de créer un mouvement musical d'extrême droite qui pouvait atteindre un plus large public.
Ouais, c'est du punk rock,
alors,
d'extrême droite.
Ils rompent avec le punk rock d'une certaine façon, ou du moins ne prennent plus le label musique oi, marqué, skinhead, qui génère tout un imaginaire, et vont appeler ça le rock identitaire français.
D'accord.
Donc ça apparaît Les premiers groupes, par exemple Fraction. Alors Fraction est un groupe assez intéressant. Donc ça voit le jour en 94. L'origine, le premier nom du groupe est Fraction Hexagone, puis il deviendra Fraction.
Légion, excuse-moi, Légion 88,
ça c'est de la Hoy.
C'est avant.
C'est de la Hoy, c'est avant. Ouais. Donc ça c'est délibérément Skinhead marqué. Ouais. Marqué nazi, enfin, dire, les chansons ne laissent pas.
Non, mais là, ça fait pas un pli,
beaucoup d'ambiguïté.
Ouais, non, bien sûr, mais est-ce que c'est une question pour savoir si, selon toi, selon vous, c'est un peu le début justement de récup un peu à grande échelle en France d'une contre-culture? Parce que j'ai pas tellement d'exemples qui reviennent à peut-être un peu plus loin d'un truc qui a quand même un impact jusqu'à aujourd'hui. Sur le milieu.
Alors là, oui, on a Légion 88, tous ces mouvements-là, tous ces groupes-là, enfin, il y en a pas mal, sont la première génération, on va dire, d'accord, d'une création, enfin, d'une création, d'une reprise de styles musicaux extrêmement marqués. Mais enfin, la chose existe déjà en Angleterre, quand ça arrive en France, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté française, c'est pas une nouveauté européenne.
D'accord. Mais ils reprennent donc tout le style et puis aussi la forme de scène. Ça veut dire que c'est des locaux qui sont alternatifs, associatifs, c'est pas des salles officielles. C'est aussi donc toute la façon de procéder à la communication et à la représentation de soi qui est une copie conforme de la scène alternative à ce moment-là, quoi.
Ça, c'est une copie conforme d'alternative. Dire, en réalité, les deux scènes alternatives, qu'elles soient de gauche ou droite, ont une création dans l'espace français à peu près commune.
D'accord.
Des groupes vont se polariser à gauche, d'autres à droite.
Au même moment.
Certains vont même avoir des parcours assez troubles entre la gauche et la droite, que ce soit des parcours individuels ou généraux de groupe, mais c'est à peu près au même moment. Enfin, on va dire ces choses-là se créent au même moment. Et
d'accord,
sont à la fois une entreprise délibérée et non, puisque finalement, une scène se crée et les gens polarisent cette scène selon des modalités qui existent déjà en Grande-Bretagne. Donc, le riff en lui-même est différent puisque c'est une création visant par la musique, le rock identitaire français, donc visant à finalement pénétrer des nouveaux milieux par la musique. Donc c'est beaucoup plus théorisé que finalement le mouvement Oy en France.
C'est stratégique, quoi.
Voilà, il y a une dimension clairement stratégique. Donc en 94, donc on a Fraction Hexagone qui est l'un des premiers groupes de riff. Il y en a un qui est sorti l'année d'avant qui s'appelle Vae Victis, donc qui a été créé en 93, qui est sans doute le pionnier du genre. Mais Fraction Hexagone est intéressant parce qu'on retrouve deux personnes qui sont actuellement des militants bien connus et actifs, puisque les chants sont assurés par un certain Philippe Vardon. Et les basses et chœurs sont assurés par un certain Fabrice Robert, qui sont actuellement les deux dirigeants du bloc identitaire, donc qui ont organisé il y a peu des assises de la France en danger, donc le 10 mars dernier.
Qui sont un peu les premiers sur la liste des bons communicants d'extrême droite en ce moment, quoi.
Et Vardon vient d'ailleurs de sortir un ouvrage dont le titre exact m'échappe, mais qui est contre-culture identitaire ou quelque chose comme ça, enfin, qui est clairement sur ce créneau contre-culturel, quoi.
On garde la question au four, on revient dans 2 secondes, on va faire une pause.
On va passer un petit morceau d'Invincible, on va écouter le morceau People Not Places, c'est en featuring avec la rappeuse palestinienne Abir. Donc voilà, Invincible, c'est vraiment une artiste intéressante. Donc voilà, essayez de vous renseigner un petit peu et on écoute le morceau tout de suite.
Do you ever miss back home? I miss people, but I don't miss places.
Prepare for takeoff, touchdown, Ben Gurion. Strict search, make sure nobody enter with bombs. Blue, white flag for this birthright, Toramon. Never mention 3 villages that the airport is on. Recent history buried, but it speaks through the sand. All Jews, law of return, I don't seem to understand. A land without a people, for people without a land. But I see a man standing with a key and a deed in his hand. Museum of the Holocaust, walking outside in the distance, all ghosts throwing a Molotov. Houses burned with kerosene, mass graves, couldn't bear the scene. It wasn't a pogrom, it was the ruins of Deir Yassin. Shopping at the Kenyon Malha, built it on the back of the town Al Malha. Wishing we could call its name, appalled by the change. And now a mall full of chains is all that remains. My evil misses people, not places. Has you seen the town with names of Arabic, the Hebrew places? The policies of evil and racist. I've been my teaching and touch, but
between a hole and a brick. I'm feeling more than melancholy. This used to be the Moroccan quarter until we stopped them short. And now they grandkids is the ones that storm a rock support. I ain't wanna play and I don't pray often, so I'm A-walling. While you making native sons feel like a stranger in their homeland, like James Baldwin. This ain't about a Quran or a synagogue, a mosque, a Torah. Colonizers break it into acres and dunhams, erasing the culture when they change hyper to hyper. Change Yapa to Yafo, the old city left to haunt. Hummus pronounced hummus, we ate in the restaurant. Next hit the discotheque, yes we on a list of guests. Palestinians can't get in, it's blatant disrespect. Cops stopping for speaking their languages, it's dangerous to repeat it when we're history, we disconnect. My Imam misses people, not places. Cash, you see the town with names of Arabic, the Hebrew. And closed settlement spreading like cancer and toxic sewage polluted the roads. Not full of checkpoints that superimpose the truth and it shows. Village ruins overgrown with planted trees. Who'd have thought the desert blooms a tuber spot? I can't believe it ain't environmental. Disguising lies of sick and lives like manatees. Calling it a transfer, please. More like a catastrophe. Birthright towards recruiting them, confuse them into moving in. Claim it's only names and words, but denying the root of them. Power been abusing it, I passed never excusing them. 60 years since 48 and 40 since Jerusalem. My boy Shady wanted to visit us so badly. He lied he's diabetic to see it for 5 seconds. 194 ruled the courts in the case. Mom, you can't disconnect the people from the importance of place. My Ema misses people, not places. Has she seen the towns with names in Arabic, the Hebrew replaces? The policies is evil and racist, deceitful and heinous. You'll never be a peaceful state with legal displacement.
Alors on revient avec Quartier Libre. On était donc sur les sujets, le sujet un peu plus bouillant, plus actuel, donc de la récupération par l'extrême droite de centres de scènes de contre-culture et du coup de nouveaux angles de communication politique à des fins stratégiquement bien ciblées de récupérer une certaine population. Manu ou
Ouais, donc on était sur le rock identitaire français. Donc juste pour conclure un peu avec cette scène-là, on peut dire que c'est globalement un échec. Hein. Les albums n'ont pas eu de succès, ne sont pas vendus. Ça n'a pas généré un grand mouvement comme escompté, ça c'est évident. Ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de la France, cette scène s'est aussi développée, donc notamment en Italie. Où en 97, un groupe fait son apparition, il s'appelle Zeta Zero Alpha, donc c'est 97. Le groupe a comme chanteur Gianluca Iannon, qui est un nationaliste italien. Donc ils n'ont pas une musique extrêmement fixe, on retrouve des albums qui sont du rock style identitaire français, mais également des musiques beaucoup plus électroniques, alors ça dépend des albums. Ce groupe a quand même un intérêt, c'est qu'il s'assoit sur donc d'abord un mouvement étudiant qui s'appelle le Bloco Studentco et des réseaux de squat italiens d'extrême droite. Alors là, qui est une grande nouveauté, puisque ça n'existe pas en France vraiment à l'époque. Il y a eu des squats skin, il y a eu des choses comme ça, mais c'était pas des squats ouverts. Donc là, c'est des squats ouverts à destination donc de familles italiennes dans le besoin, tenues par des militants. Donc,
ça s'appelle des centres sociaux là-bas.
Ça s'appelle des centres sociaux. Et donc, c'est à l'origine d'un mouvement qui actuellement est observé par toutes les droites radicales européennes, qui est le mouvement Casa Pound, donc en référence au poète fasciste américain Ezra Pound. Donc, alors musicalement, Zeta Zero Alpha, pas grand-chose, mais médiatiquement, ils ont réussi à se faire connaître par une espèce de danse, mélange, en gros, c'est du pogo dans lequel on se donne des coups de ceinture.
D'accord.
Voilà, qui a un peu défié la chronique italienne et donc fait parler de lui. Mais donc le Casa Pound, non seulement donc a ouvert des squats à destination de famille italienne dans le besoin, mais à toute une opération de communication vis-à-vis de la jeunesse italienne, et même au-delà de la jeunesse italienne, du fait
international. Moi, ce que j'avais compris de Casa Pound, c'est qu'ils avaient quand même un centre d'accueil pour... on va dire fachos de tous bords, de toute nationalité, justement réunis sur cet échange, et donc qui pour le coup est propre à des systèmes d'entraide et de solidarité internationale, généralement liés aux mouvements d'extrême gauche, libertaires, anarchistes et autres, quoi.
Alors donc, c'est un peu le modèle, hein. Ils reprennent le concept des squats de gauche.
Des community centers à l'américaine, bien sûr.
De toutes ces choses-là, sachant que, en gros, c'est quand même un squat à Rome. Enfin, c'est pas non plus un réseau de squats internationaux. De façon plus, peut-être plus en effet internationale, ils ont réussi à lancer une radio. Donc une web radio, Radio Bandera Nera, donc Radio Drapeau Noir.
Donc là, encore une fois, on reprend quand même un imaginaire...
On prend l'imaginaire de la radio libre.
La radio libre, exactement.
La radio pirate.
Etc.
D'ailleurs, l'imaginaire des pirates est surdéveloppé sur le site qui est attaché d'ailleurs à Casa Pound, sur Zantropa, qui balance chaque jour des tonnes, alors justement, d'images, de citations. C'est toujours sur des formats très brefs. Hein, c'est là qu'on est vraiment dans une entreprise de communication et d'offensive par la référence culturelle plutôt que par la réflexion. Il y a très peu de textes longs ou d'analyses fournies, en fait. C'est beaucoup d'images, de références, beaucoup de pubs aussi pour des fringues. Ils font beaucoup de t-shirts aussi, de merchandising. Hein. C'est une vitrine à tous les sens du terme. Ils ont des choses à vendre aussi, hein, clairement. Et là-dessus, ils tapent effectivement dans les références de gauche, de droite, sur le mur d'entrée du squat de Casa Pound à Rome, dont quelques photos ont été publiées dans un article récent du Monde, notamment. On voit, il y a une espèce de galerie de portraits. Il y a des écrivains, des musiciens, des penseurs, des idéologues, de droite comme de gauche. C'est un peu la grande fête à la référence, quoi.
La dernière reprise, par exemple, dans le cadre français, ça a été Hugo Pratt et Corto Maltese, puisqu'il y a eu l'exposition Corto Maltese à la Pinacothèque il y a un an. Faut dire que Hugo Pratt a eu des relations amicales avec cette personne extrême droite, mais en fait, était loin de l'extrême droite et a publié dans Pif Gadget, qui était pas le journal pour enfants le plus marqué à l'extrême droite dans les années 80. Mais en tout cas, l'aventurier solitaire, militaire, romantique, etc. Ils ont essayé donc de le récupérer. Ils ont fait Albator aussi.
La référence d'extrême droite dans le milieu, justement, ce que tu disais tout à l'heure à propos de Casa Pound, au niveau de l'imagerie, dans la communication pure et dure, hein, stratégique, courte, brève, très imagée, etc., qui en général est plutôt l'apanage des milieux libertaires avec les drapeaux pirates, le rouge, le noir et tout ça, est récupéré aujourd'hui en France par l'extrême droite de façon... sans scrupules. On a par exemple Projet Apache, on a les blocs identitaires, on a des mouvements fascistes qui sont reniés par d'autres mouvements identitaires un peu plus franco-français et traditionnels, on va dire, nouveaux, qui reprennent complètement l'imagerie du Black Bloc, par exemple. On a pu voir ça dans les défilés.
Les nationalistes autonomes, en effet, reprennent totalement le look, même les drapeaux, puisqu'ils ont repris... donc c'est un vieux symbole de l'Allemagne, de l'entre-deux-guerres, qui sont les drapeaux noirs et rouges superposés des antifascistes allemands de l'époque, qui ont été réimportés en France il n'y a pas de ça très très longtemps, et qui ont été repris par les nationalistes autonomes. Donc et quand on voit leur défilé, c'est sûr qu'entre des nationalistes autonomes et des Black Blocs, si on ne fait pas attention, c'est très difficile de les différencier. Donc ils ont repris sciemment tout un imaginaire qui est sans doute plus parlant que l'imaginaire traditionnel de l'extrême droite culturellement, et sans doute plus groove, entre guillemets, pour justement ça, avoir une audience. Ça se retrouve aussi dans les autocollants, avec les autocollants noirs et rouges qui font, pour certains, penser vraiment aux autocollants de la CNT ou d'Alternatives Libertaires.
Pour quelque chose qui a peut-être un peu plus d'audimat, on va dire, au niveau de la com, on parlait tout à l'heure bloc identitaire, j'en parle parce que nouvellement à Toulouse, ils ont ouvert un local, les copains ont d'ailleurs fait un rassemblement, une manif pour contester l'installation du bloc identitaire dans cette région, sachant qu'elle devient de plus en plus forte dans la région. À Lyon, on en avait déjà parlé. À Paris, on connaît un peu plus la chanson. Est-ce que justement au niveau de la communication, du coup, au-delà du style vestimentaire, au-delà de la musique, est-ce que aujourd'hui, donc, on en revient aussi un peu allié avec l'échange qu'on avait eu avec Manu et Momo ici il y a quelques temps, on voit des groupes comme Soral qui reprennent carrément donc l'idée d'un prolétariat de quartier, donc face à la bourgeoisie qui est du coup éloignée des mouvements d'extrême droite qui étaient quand même à la base comme Action Française ou des choses comme ça, des mouvements largement bourgeois. Là, on en revient à quelque chose de proprement qui se veut populaire, qui veut parler à des jeunes de quartier et qui veut justement, à l'image des gens qui ont essayé de récupérer l'imagerie Skin, qui est à la base donc un prolétariat de gauche antiraciste, antifasciste, récupérer aujourd'hui un public très jeune et populaire, quoi. Est-ce que vous avez
c'est un combat donc des identitaires depuis quasiment la création des identitaires au début des années 2000, cette idée de récupérer jeunesse. Alors ça se développe pas particulièrement, les identitaires arrivent à avoir une certaine synergie qui leur est propre. Dans les phénomènes actuels, il y a tout le mouvement autour des gabeurs, donc ça qui est un mouvement qui a un certain impact dans le nord de la France et en Belgique.
Les gabeurs.
Alors les gabeurs, c'est un mélange de musique oi et électronique, techno, assez violent.
Ça a été repris par les hooligans lyonnais, ça,
ça commence à être repris un peu partout.
De clip avec des masques de cochon, là, complètement improbable, où j'étais complètement... voilà, c'est ça, là.
Oui. D'accord, donc, c'est un mouvement qui est né dans les pays flamands, Hollande, Belgique, qui a contaminé progressivement le nord de la France. Donc, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent. Enfin, il y a toute une affaire actuellement qui existe encore, d'ailleurs à Chauny,
ouais.
Donc un petit bled picard où les jeunes sont très très marqués par cette mouvance-là. Donc,
et on trouve des gabber skin assez actifs.
Des gabber skin assez actifs qui n'ont pas été politisés directement, mais ont été politisés par le biais de sorties en Belgique où ils se sont mélangés à une scène qui était déjà politisée ramené la chose dans le nord de la France.
Je t'ai coupé dans la description de gabber, donc tu disais c'est un mélange électro-oeil.
Techno-oeil.
Techno-oeil, d'accord.
Voilà. une musique assez speed, donc comme la Oi était, mais avec des beats techno, on va dire, pour faire rapidement la chose. Donc ça s'accompagne d'un look qui est plutôt look de jeune classique dans des mouvements techno alternatives.
Truc un peu de rave machin.
On retrouve évidemment certains symboles, une culture aussi du graffiti à Chauny. Ils sont assez actifs à graffer diverses choses, Et donc ça, c'est un mouvement qui a, en tout cas localement, un certain impact, qui l'a toujours, et qui tend en effet, par le biais de certains réseaux identitaires, etc., se disséminer actuellement en France bien au-delà de la Picardie.
Est-ce qu'on a autre chose que des rêves parties picardes ou pour l'instant on s'en tient là?
Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre. Maintenant, il faut voir comment cette musique peut se développer et ce que ça peut donner, ce qui n'est pas du tout évident dans l'état actuel.
Bah, c'est pas évident vu la musique que c'est, si c'est ce que je pense.
C'est intéressant dans le public que ça a touché. C'est vrai que il n'y a pas grand chose qui a été fait encore dessus. Il y a quelqu'un comme Stéphane François qui s'est intéressé un petit peu, qu'il y a quelques articles qui sont disponibles en ligne qui s'intéressent au phénomène. Sociologiquement, l'audience est plutôt justement des jeunes déscolarisés ou des jeunes en rupture parfois, dans des situations sociales souvent défavorisées, c'est des milieux populaires, et où là pour le coup l'extrême droite a tout intérêt à essayer de de substituer une approche par la solidarité ouvrière à une solidarité qui serait fondée sur les qualités de français, quoi. Enfin, c'est là qu'ils essayent d'investir le terrain clairement et de récupérer ces mouvements de jeunesse là, quoi.
Les mouvements, en plus, c'était pas lié à un mouvement politique à l'origine. Il y a beaucoup de mouvements politiques qui sont arrivés, alors du FNJ en passant par les identitaires, voire des choses beaucoup plus obscures pour essayer de récupérer ces jeunes en perdition. Ça, c'était, ça a été un élément assez marquant du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une politisation, on va dire, d'une certaine façon, par un biais culturel, mais qui débouchait pas à l'origine sur une mobilisation politique en tant que telle.
Oui, c'est un peu sournois, quoi.
C'est assez sournois. Ouais. Okay. Voilà, on retrouve. Alors sinon, actuellement, il y a aussi des. Il y a une web radio, donc on avait parlé de Radio Bandiera Nera, donc dans un autre registre, mais actuellement, donc en France, il y a donc Méridien Zéro, qui est une branche de Radio Bandiera Nera, qui donc radio libre par internet, qui font une émission donc hebdomadaire. Donc là, et qui est lié, alors les animateurs sont très liés à la revue Réfléchir et Agir, dont on a parlé au tout début de l'émission, qui est une des revues donc, qui a théorisé et lancé cette offensive culturelle dans les années 90. Donc,
et aujourd'hui, ils sont liés à quel...
Alors c'est le MAS, Mouvement d'Action D'accord. Sociale, qui se revendique comme européiste, païen, anti-utilitariste, socialiste... Donc, il revendique l'héritage du socialisme français, donc des gens comme Georges Sorel, etc., etc. Anticapitaliste, évidemment, et radicalement anti-sioniste.
Projet Apache, alors c'est pas dans le style.
Non, alors ça a pas, c'est beaucoup plus intellectuel que Projet Apache. Les animateurs du MAS d'ailleurs tissent des liens assez larges dans l'extrême droite, invitant réguliers, donc des invités réguliers qui vont de gens clairement de leur mouvance, par exemple des gens comme Pierre Vial de Terre et Peuple, donc mouvement très folkish, qui sont des mouvements allemands, originaires d'Allemagne de l'entre-deux-guerres, donc qui sont des proto-nationaux socialistes, on va dire. Donc voilà, des gens comme Pierre Vial de Terre et Peuple qui sont assez proches d'eux, mais ils invitent aussi par exemple un journaliste d'extrême droite comme Emmanuel Ratier, lui qui est beaucoup plus dans une branche nationale catholique, voilà. Ils ont invité Soral d'ailleurs aussi, etc., etc. Donc ça, ils ont une ouverture assez large. Leurs émissions durent à peu près 2 heures, sont d'assez bonne qualité. Et c'est un phénomène qui est certes marginal, mais ils ont une certaine audience au sein des droites radicales, et je pense que ça dépasse un peu les droites radicales. Hein. Donc voilà. Et en plus, ça s'appuie donc sur Réfléchir et Agir, qui a donc revue, qui a réussi à faire plusieurs tours de force en interviewant des intellectuels diverses et variées. Le dernier numéro, par exemple, qui est une interview de Michel Maffezoli, dont on peut penser ce qu'on veut, mais enfin qui n'était pas à l'origine marqué à l'extrême droite. Il était plutôt marqué. Michel Maffezoli est un sociologue qui s'était illustré il y a de ça quelques années pour avoir fait soutenir sa thèse, pour faire soutenir sa thèse à Elisabeth Tessier en astrologie à Paris 5. D'accord. Voilà, qui a été un conseiller de Sarkozy au début du mandat présidentiel de Sarkozy, mais qui donc n'est pas quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un plutôt marqué à droite, mais voilà. Il vient de donner un article, donc il ne le donne pas en tant que personne d'extrême droite, il le donne pas, mais il a accepté de répondre. La revue arrive à très bien à gérer cette affaire et à contribuer d'ailleurs à diffuser dans les années 90 et 2000 différents groupes de musique électronique, puisqu'ils sont très liés avec ces milieux-là. Donc on retombe sur finalement une offensive culturelle depuis les années 80.
Donc, pour résumer et conclure un petit peu, donc récupération contre-culture par l'extrême droite passe quand même, qu'il le veuille ou non, par la récupération de cultures qui appartiennent à la classe populaire des milieux de gauche, d'extrême gauche et libertaire. Donc ils ont quand même pas beaucoup d'imagination, parce qu'aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, à part des rave parties picardes et de la mauvaise oeil,
Ça ne donne pas grand-chose.
Hip-hop, rap ou reggae, on n'a rien. Quoi,
alors, hip-hop, rap, reggae n'a jamais réussi à être récupéré. Il y a eu, eu des tentatives. Et... Donc, Basic Celtos, qui a fait trois albums plutôt consternants. Et plus récemment, Goldofaf, donc un kato traditionnaliste.
Qui est consternant aussi.
Oui, il y a des petites scènes c'est des petits films devant Notre-Dame où il est complètement consterné, tout ça. Mais bon, enfin, je veux dire, on voit quand même que ça marche pas. Ces gens-là sont quand même d'appartenance de catholiques intégristes de milieux globalement bourgeois, quoi. Donc ils ont beau dire ce qu'ils veulent, on n'a pas ce qu'on peut avoir par exemple quand on parle de Casa Pound, une accroche réelle dans le milieu populaire de l'extrême droite en France. Quelque chose à dire en conclusion, des dates éventuellement, parce
que
là
il y a des conférences de prévues, ouais, ou...
Alors, pour l'instant, pas de date fixe. On est en train d'essayer de se mettre d'accord là sur une date où on serait tous disponibles. Normalement, justement, on aimerait amener ces réflexions là sur les contre-cultures, avoir le jour sous la forme d'une conférence prochaine dans les mois qui viennent. Ce sera annoncé sur notre site, enfin qui a un blog en l'occurrence sur WordPress. Donc c'est Quartier Libre pluriel pour WordPress.com, je crois, .com.
Quartier Libre pluriel.
Ouais, tout attaché. Quartier S Libre S .wordpress. Com. Okay. J'espère pas me tromper, je crois que c'est ça l'adresse.
Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est mémoire. C'est
merci.
Ça.
et là, donc normalement, la date devrait tomber d'ici peu de temps. Là, on a été un peu occupés tous, donc on n'a pas de date précise, mais ça ne saurait tarder. On va reprendre ça. On sort tout juste de la conférence sur le Bourg et voilà, donc ce sera sur le site très bientôt.
D'accord.
Okay. Bah, de toute façon, on vous tiendra au courant.
Sur un peu l'information. On vous remercie d'être venu.
Merci à vous.
Et on va se faire une petite pause musicale vite fait. Et puis on va passer à l'agenda.
On fait l'agenda
direct. Direct.
Ouais. D'accord. On n'a plus trop de temps là.
Alors, donc, ce week-end, demain samedi, on va avoir une manifestation suivie d'un concert par le collectif Vivolé. Vivolé, donc, c'est un collectif formé par plusieurs comités, Alizéry, Lamine Dieng, Mahamadou Morega, Aboubakari Tandia, Abdelhakim Hajimi, dont on vous a parlé à la dernière émission. C'est donc la seconde édition d'une mobilisation à l'échelle nationale des victimes de la police, donc samedi 24 mars de 14 à 18h. On peut retrouver la manif donc à la place de l'Opéra jusqu'à la Fontaine des Innocents. Pour avoir plus d'informations, donc vous pouvez aller sur internet www.atoutlesvictimes.samizdat.net. Donc cette journée-là, après la manifestation, sera suivie d'un concert à la ligne 13 à Saint-Denis, métro Porte de Paris, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
À partir de 20h, dont les fonds seront entièrement reversés à la famille Hajimi. On retrouve Zaké, Mokles, Morad de la Scred, Pigemax, Camélia Pandore, La Jonction, entre autres. Voilà, gros concert, grosse journée, belle mobilisation. On vous invite à aller vous renseigner et évidemment à participer à ces initiatives. On va finir sur des concerts un peu plus tard dans le mois. À qui t'avais
Ouais, il y a la date du 22 avril. En fait, il y a un concert de soutien aux prisonniers de Villers-le-Bel et aux victimes de crimes racistes et sécuritaires. Donc ça se passera au CICP le dimanche 22 avril. C'est avec ZEP, donc Zone d'expression populaire. Et première ligne, il y aura un autre groupe. Donc voilà, c'est de 17h à 22h, c'est 5€. Donc en soutien aux prisonniers de Villers-le-Bel.
21 Terre, rue Voltaire, métro Nation ou rue des Boulets.
C'est ça, voilà, le 22 avril. Et on en reparlera, il y a le premier forum social antifasciste à la Bourse de Travail de Saint-Denis.
On
et ça, c'est
dessus.
Le 7 avril. Donc voilà, on va conclure là-dessus. C'est la fin de l'émission. En vous souhaitant... un bon week-end. On retrouve les émissions sur bboyconscient.com. Et puis voilà, puis cette émission le sera d'ici 2-3 jours en téléchargement et en écoute dans la rubrique qui va bien.
Rediffusée donc le mardi de 16h à 17h sur le 106.3. On remercie à Manu et à Anne-Valérie d'être venues. Et puis on vous dit bon week-end et à la semaine prochaine.
Ouais, bon week-end.
Frontline 106.3.